J'espère que vous avez eu une bonne Pâque, une bonne soirée mémorable et que vous passez une bonne fête des pains sans levain. Ces célébrations ayant été cette année un peu hors de l'ordinaire, n'est-ce pas, avec ce coronavirus, la plupart des pays dans le monde sont dans un état de panique, bien souvent. Et nous vivons une époque où, qui a été prophétisée d'ailleurs, et nous ne devrions pas nous en étonner, mais c'est une époque éprouvante bien sûr, et j'espère que vous allez tous bien et que vos familles vont bien. Ce qui est encourageant, c'est que nous savons que notre Père Céleste est aux commandes et que son plan va s'accomplir. La fête des pains sans levain est intimement liée à notre libération d'un terrible esclavage. Plusieurs millions de nos ancêtres s'enfuirent du pays d'Égypte, qui symbolisait le péché. Notre monde demeure néanmoins captif du plus dangereux de tous les criminels, Satan, le diable. Un rebelle, un geôlier, un tortionnaire, un dictateur maléfique, ennemi de tout ce qu'il y a de bien et de bon. Un archange déchu, fort puissant, qui tire souvent son pouvoir du fait que peu de gens croient en son existence et en son pouvoir. Mais pour nous, frères et sœurs, c'est un être maléfique, extrêmement dangereux et fort réel, qui ne peut être vaincu que par la force, par la puissance de notre grand Dieu, grâce à son Saint-Esprit. Cette fête nous rappelle que nous avons, nous aussi, quitté l'Égypte, grâce à la main toute-puissante de notre merveilleux héros spirituel omnipotent. Cette fête nous rappelle chaque année notre origine, notre ultime destination. Elle nous rappelle l'Égypte. Elle nous rappelle que nous avançons irrémédiablement sous la conduite de l'Éternel devenu Christ Rédempteur vers le royaume de Dieu. Des millions de soi-disant chrétiens n'ont pas la moindre idée de ce que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ accomplissent ici-bas. Souvent sincères, ils sont néanmoins aveuglés par le pire des séducteurs. Ils ne sont néanmoins pas perdus. Dieu a un plan. Un jour, il les délivrera de leur aveuglement, de leur servitude. Et vous et moi, nous avons été libérés. Nos yeux ont été ouverts. Et nous célébrons notre libération. Nous faisons disparaître le vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque nous sommes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. L'Égypte avait beaucoup de dieux, des idoles impotentes, nées de l'imagination des hommes. Le monde a beaucoup de faux dieux. L'hindouisme aurait 300 millions de dieux. Dans ce sens, peu de choses ont changé, n'est-ce pas? La fête des pains sans levain nous rappelle immanquablement, elle nous rappelle immanquablement bon nombre de nos ancêtres, plus particulièrement ceux qui furent libérés d'Égypte vers 1486-1487 avant notre ère, israélites pour la plupart. Bref, cette fête nous rappelle nos ancêtres et nous incite à réfléchir à plusieurs des mauvais choix qu'ils ont faits et aux conséquences de ces choix. Effectuons un retour en arrière. Exode chapitre 1, verset 1. Exode chapitre 1 et le verset 1. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph dans ce sens qu'il ne le reconnaissait pas. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que, s'il survient une guerre, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Mais pourquoi ? C'est la question que nous pouvons nous poser. Ils étaient plus nombreux, ils auraient facilement pu se révolter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que leur servitude, frères et sœurs, était due à leur désobéissance. Et la servitude de l'humanité est due à sa désobéissance, au péché. Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8 et le verset 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, un groupe d'individus qui avaient cru en lui. Ils avaient cru en lui. Et il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Condition importante. Bon, vous avez cru en moi, mais maintenant il s'agit de demeurer dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Elle vous libérera. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre ? Il est clair qu'il ne comprenait pas de quoi il voulait parler. En vérité, je vous le dis, de répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà le type d'esclavage dont il voulait parler. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien qu'étant sortis physiquement d'Égypte, les enfants d'Israël ratèrent cependant leur exode. Oh, ils quittèrent l'Égypte, grâce à Dieu et à son immense miséricorde, mais ils ratèrent leur exode spirituel. Nous connaissons leur histoire. Contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Oh, les choses ont peu changé, n'est-ce pas? Dès le départ, en tant que nation, Israël ne parvint pas à s'extirper spirituellement de l'Égypte, de la terre de Cham et de Mitzraïm, une des grandes civilisations du passé. Mais aussi une terre de péché. Physiquement, Israël quitta l'Égypte, mais spirituellement, elle resta accrochée à sa peau, cette Égypte. Israël ne comprit pas de quel type de délivrance il était surtout question. L'Éternel voulut faire de lui, pour reprendre les paroles de l'apôtre Pierre, qui s'appliquent maintenant à nous, une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin qu'il annonce les vertus de celui qu'il appelait des ténèbres à son admirable lumière. Lui qui n'était pas un peuple notoire, comparé aux autres nations, et qui pourtant aurait pu non seulement physiquement, mais surtout spirituellement, devenir le peuple de Dieu. L'Éternel voulait qu'ils comprennent qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, qu'ils s'abstiennent des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous reviendrons sur ce passage. Dieu leur proposa d'être leur roi, mais ils refusèrent. Une fois physiquement libérés de l'esclavage, ils voulurent retourner en Égypte. Ils souffrirent d'anémie cérébrale et oublièrent tous les anciens malheurs, prétextant que leur cuisine à l'ail et les poireaux qu'ils avaient en Égypte leur avaient plu et qu'ils préféraient retourner à leur péché. Nous connaissons leur histoire. Dieu les avertit, mais ce fut peine perdue, ils se bouchèrent les oreilles et ils refusèrent de l'écouter. Parlez d'ingratitude. Peu d'années après, ils se retrouvèrent dans une situation déplorable. De nouveau asservis, dominés par les nations païennes qui les entouraient. Se vautrant dans l'idolâtrie et se livrant à des pratiques abominables, souvent même pire que les païens. Ils n'avaient rien appris. David, un peu plus de 4 siècles plus tard, vers 1050 avant notre ère, composa un psaume dans lequel il dit ceci. Excusez-moi. Psaume 20, reportons-nous au psaume 20. Psaume 20 et le verset 7. Psaume 20. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là sur leurs chevaux, étaient seulement les Égyptiens qui s'appuyaient sur leurs chars. Dans leur mentalité, les Israélites faisaient de même. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Pharaon et son armée avaient une optique évidemment différente de celle de David. Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur eux tous, des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Exode 14, versets 6 à 8. Frères et sœurs, que signifie quitter l'Égypte? Qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour moi? Surtout pendant cette fête des pains sans levain. Pour l'ancien Israël, cela signifiait quelque chose de bien précis. Une délivrance physique et rien d'autre. Mais pour vous et pour moi, qu'est-ce que cela signifie? Pour tout chrétien, cela devrait être une expérience riche en symbolisme, chargée d'émotions, profondément spirituelle. Il est question de notre conversion et de notre cheminement vers le royaume de Dieu et de notre entrée dans la famille divine, grâce à notre grand libérateur, Christ. Quitter la terre du péché prend du temps. Requiert de gros efforts, représente une désintoxication totale, un énorme changement d'attitude, une véritable révolution intérieure, car il s'agit de passer des ténèbres spirituelles à l'admirable lumière divine. Pour pleinement prendre conscience de l'importance de cette fête, nous devons commencer par prendre notre appel au sérieux. Ce que nous faisons généralement, frères et sœurs. Mais nous ne pouvons pas nous enorgueillir de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Christ est activement impliqué dans nos vies et notre délivrance a lieu maintenant. Maintenant. Nous sommes appelés à présent et nous faisons partie des prémices du plan de salut divin. Reportons-nous à ce passage auquel je faisais allusion il y a quelques instants, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 7. 1 Pierre chapitre 2. Et le verset 7. Pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Pour eux, c'est un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous et moi, frères et sœurs, il s'adresse à nous, là. Vous et moi, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, maintenant mais aussi à l'avenir, pendant le millénium et lors de la deuxième résurrection aussi. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et dans Exode 19, versets 5 et 6, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, « Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà ce que l'Éternel leur avait proposé. Mais continuons dans 1 Pierre 2, verset 11, « Maintenant, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il ne s'agit pas d'être « Oh, comme d'habitude, on n'a pas besoin de changer, Christ a tout fait à notre place. » Non, nous lisons des passages comme cela et nous voyons qu'il y a quelque chose à faire. Nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres. Nous devons donc à nouveau produire de bonnes œuvres. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Et ce jour peut être maintenant, mais il peut être aussi pendant la deuxième résurrection ou durant le millénium. Les prophéties bibliques indiquent que nos nations de souche israélite seront bientôt de nouveau emmenées en captivité pour avoir rejeté l'Éternel et à cause de leurs nombreux péchés. Nous sommes déjà envahis par des peuples qui ne connaissent pas Dieu et qui ne partagent pas les valeurs morales bibliques. Il y a de bons immigrants et il y a de mauvais immigrants. Mais la raison principale pour laquelle nos nations vont de nouveau être physiquement asservies est que leurs péchés se sont multipliés. Leurs péchés à eux, il est facile de blâmer les immigrants. Dans certaines situations, ils posent certains problèmes. Mais Israël lui-même n'est pas dans la bonne situation non plus. Seul leur repentir pourrait leur épargner le sort qui les attend. Dieu seul peut nous sauver. Nous avons été créés libres de choisir ce que nous allons faire. Et bien qu'en grande partie séduits ou endurcis en tant que nation, nous sommes responsables de l'état dans lequel nous nous trouvons. Alors je repose ma question, frères et sœurs. Que signifie pour vous quitter l'Égypte? Est-il question pour vous juste d'un sauvetage physique? Ou est-il question de quelque chose de bien plus profond, d'un sauvetage spirituel? Pour être libéré, il faut commencer par vouloir être libre. Beaucoup de gens s'estiment bien comme ils sont et ils n'ont aucune envie de changer. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Luc 5, verset 31-32. Dieu nous a appelés. Il faut savoir ce qu'est la vraie liberté. Quelqu'un qui s'estime libre ne voit pas toujours le besoin d'être libéré. En généralement, il ne voit pas besoin le besoin d'être libéré. De quoi l'humanité a-t-elle besoin d'être libérée? Du péché, symbolisé pendant cette fête par le levain. Cette fête des pains sans levain revêt un profond symbolisme. Elle nous rappelle chaque année que nous avons été libérés, mais aussi que nous devons continuer de vivre en tant qu'hommes ou femmes spirituellement libres. Nous ne pouvons pas nous permettre de retourner en Égypte. Nous avons été rachetés et nous ne le serons pas deux fois. Nous n'avons qu'une seule chance, à nous qui sommes appelés aujourd'hui. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, sous-entendu une deuxième fois. Et Christ ne meurt pas deux fois. Les enfants d'Israël furent en Égypte 430 ans, d'après Exode 12, versets 40 et 41. Mais ils devinrent esclaves des Égyptiens à cause de leur mauvais choix. S'ils ne s'étaient pas détachés de Dieu, ils auraient été invincibles. Même chose pour nous. Ils furent apparemment esclaves 80 ans. Les Juifs auxquels Christ s'adressa dans Jean 8, que nous lisions il y a quelques minutes, estimaient n'avoir jamais été esclaves de qui que ce soit. Oh, ils avaient la mémoire courte. Leurs ancêtres avaient été en captivité. Et ces Juifs ne comprenaient pas, surtout, de quel type de captivité Christ voulait parler, celle du péché. Reportons-nous à Romains 6, si vous voulez bien, Romains chapitre 6, verset 16. Romains chapitre 6 et le verset 16. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave dans le grec doulos, qui peut être traduit incidemment par ou serviteur ou esclave, mais ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave dans le grec doulos, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et là, Paul fait une sorte de jeu de mots, esclave de deux choses ici dans ce passage. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous qui êtes appelés, vous qui êtes les prémices, sous-entendu. Ayant été affranchis ou libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ce mot esclave, à nouveau ici, à mon avis, il aurait mieux valu le traduire par serviteur de la justice. À mon avis, on n'est pas esclave de la justice, on est serviteur de la justice. On est esclave du péché, mais on est serviteur de la justice. Ce mot, la plupart du temps, est mal traduit cette fois-ci. À nouveau, le mot doulos en grec peut signifier l'un ou l'autre. À mon avis, ici, il s'agit d'être serviteur de la justice. Car c'est ce que nous sommes. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez été livrés, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice ou comme serviteurs à la justice, à mon avis, serait une meilleure traduction, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Vous en avez honte aujourd'hui. Vous préférez ne pas y penser, cela vous rend très inconfortable, n'est-ce pas? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi ou libéré du péché et devenu esclave de Dieu, ou pourrait-on dire serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. À nouveau, Paul joue ici, il fait un jeu de mots, esclave du péché, esclave de la justice, mais il entend par serviteur de la justice finalement. Mais il fait un jeu de mots ici, qui est tout à fait logique. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La fête des pains sans levain nous donne l'occasion de mesurer notre degré de liberté. Elle nous incite à nous demander si nous sommes totalement libres, affranchis du péché, de réfléchir à ce qui nous asservit encore, des défauts, des péchés qui nous collent à la peau encore, et dont nous sommes encore esclaves. Elle nous oblige à nous demander ce qui demeure encore du monde en nous. Nous sommes, comme l'a dit Pierre, des pierres vivantes. Nous nous édifions pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ, 1 Pierre 2,5. Pendant cette fête des pains sans levain, il y a plusieurs choses que nous devons méditer, frères et sœurs. Premièrement, la libération d'un monde retenu, captif par Satan, requiert un miracle divin. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir nous-mêmes. Deuxièmement, quitter l'Égypte spirituelle, qui est le monde, ses voies et ses péchés, requiert de gros efforts. Nous devons traverser bien des épreuves pour y arriver. Troisièmement, quitter l'Égypte spirituelle exige beaucoup de patience. Israël fut physiquement libéré de sa servitude physique, mais son accès à la terre promise prit beaucoup plus de temps que prévu, n'est-ce pas, du fait de son attitude. Il dut errer 40 ans dans le désert avant d'entrer dans cette terre promise. Oh, il ne s'attendait pas à cela. Pour lui, c'était juste une libération spirituelle. Ah, on va pouvoir continuer à faire ce qu'on a toujours fait. On sera libre, on sera tranquille. On n'aura pas les Égyptiens sur le dos. Oui, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il s'agissait surtout d'une libération spirituelle. Ils avaient besoin d'être libérés spirituellement. Pour eux, c'était uniquement physique. Mais pour vous et moi, frères et sœurs, il s'agit de quelque chose de bien plus profond, d'une libération spirituelle. Israël quitta l'Égypte, s'enfuit de ce pays, mais il continua d'être asservi par le péché. Le peuple n'obéit jamais à Dieu de tout son cœur. Il se plia seulement à lui quand cela lui apportait quelque profit, quand c'était avantageux pour lui. Mais le cœur n'y était pas. Cinquièmement, nous sommes un peuple spirituel. Nous devons quitter l'Égypte spirituelle, mais de tout notre cœur. Non pas parce que nous sommes obligés, mais de tout notre cœur. Sincèrement, avec zèle. Et nous devons demeurer sans levain, de tout notre cœur, et pas seulement pour 7 jours de l'année, lors de la fête des pains sans levain. Sixièmement, nous devons fuir l'ingratitude. Israël était ingrat au possible. Il n'était pas reconnaissant envers son libérateur. Septièmement, Pharaon refusait de lâcher prise. Et Satan refuse de lâcher prise, de nous laisser partir. Il faut réellement que nous mettions tous nos efforts, et grâce à Dieu, nous pouvons nous extirper de cette captivité. Mais Satan ne lâche pas prise facilement. Nous avons besoin de notre Père Céleste. Nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous extirper de cette captivité. L'Éternel avait dit à son peuple quelque chose d'important. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Il est question de libération. Il voulait qu'il voie les choses autrement. Alors il avait dit à son peuple, Deutéronome 6, verset 5, ce qui suit, Deutéronome 6. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ta tête? Non. Dans ta tête, oui, bien sûr, mais surtout dans ton cœur. Dans ton cœur. Bien des siècles plus tard, quand un pharisien vint poser à Christ une question piège, lui demandant quel était le plus grand commandement, Jésus répéta cet axiome. Reportons-nous à Matthieu chapitre 22 et le verset 37. Matthieu 22 et le verset 37. Christ revint sur cet axiome important. Matthieu 22 et le verset 37. Jésus lui répondit à ce pharisien qui venait et qui essayait de piéger Jésus, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » De tout ton cœur, cœur en grec, cardia. Cardia, c'est-à-dire le siège du cœur, l'expression quand on dit on fait les choses de tout son cœur. Bon, on parle finalement le cœur, il est question cardia ici de l'organe, mais il précise sa pensée aussi, de toute ton âme. De toute ton âme, en grec, psouké. Il y a trois mots différents ici. Psouké, de toute ton âme, psouké, c'est-à-dire de tout ton souffle, de toute ta force physique. Et de toute ta pensée, en grec, dianoia. Dianoia. Autrement, dans toutes tes idées, dans tous tes raisonnements. Autrement dit, avec tout ce que tu as. En t'impliquant totalement, en te consacrant totalement à Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre nettoyage spirituel, l'élimination de notre levain, ne se limite pas à 7 jours de l'année. Le chiffre 7 dans la Bible dénote souvent l'accomplissement dans la perfection. Je répète, le chiffre 7 dans la Bible dénote souvent l'accomplissement dans la perfection. Et cette fête symbolise la nécessité pour nous de nous débarrasser totalement du péché. Et nous savons que c'est un processus de toute une vie qui s'effectue grâce à Christ vivant en nous par son Saint-Esprit. Nous en sommes humainement incapables. Nous ne pouvons pas le faire humainement. Cela requiert une force, une puissance spirituelle bénéfique, celle du Saint-Esprit. Comme l'a précisé Christ, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Il y a tout un symbolisme ici à nouveau. Jean chapitre 15, versets 5 et 6, c'est le passage que je viens de citer. Alors la fête des pains sans levain est la fête de la libération de l'esclavage du péché. Par définition, être esclave, on est esclave quand on n'est pas libre d'agir comme bon nous semble. L'esclave n'est pas libre d'agir comme bon lui semble. Il est à la merci d'un maître. Il est dépendant. Un esclave est dépendant, physiquement, financièrement et autres. Son sort est décidé par quelqu'un d'autre. Il n'a pas ou très peu de biens qui lui soient propres. Il n'a pas d'avenir. Et souvent, il est irresponsable. Bon, je sais, les esclaves ne sont pas tous irresponsables. Il y a des gens qui se trouvent dans des pays qui ne sont pas irresponsables, mais par les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, ils sont dans l'esclavage. Et ce n'est pas de leur faute, ils ne sont pas irresponsables nécessairement, mais souvent, un esclave, c'est quelqu'un qui était responsable dès le départ. Donc, il a besoin de se placer sous une autorité pour pouvoir fonctionner dans la vie. Israël avait le choix. Il avait été libéré. Il aurait pu demeurer libre, mais il se replongea dans l'esclavage. Essentiellement, celui du péché. L'esclavage physique est la conséquence directe de l'esclavage spirituel. Comprenez bien ce que je dis ici. L'esclavage physique est la conséquence directe de l'esclavage spirituel. Les êtres humains sont généralement prisonniers ou esclaves de leurs idées, qui, à leur tour, sont souvent issues de Satan. Reportons-nous à Éphésiens chapitre 2 et le verset 1. Éphésiens chapitre 2 et le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, espérons que c'est toujours le cas, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, incidemment, ce n'est pas par vos propres efforts ou par vos propres bonnes œuvres. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, symboliquement, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. À nouveau, nous ne méritons pas cette grâce. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. À nouveau, on revient à cet axiome ici. Il faut accomplir quelque chose. Quand on est chrétien, on vit dans l'obéissance. On produit des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres ne nous font pas mériter le royaume, mais nous devons néanmoins vivre d'une certaine manière dans l'obéissance au commandement et produire des fruits. Pour de bonnes œuvres, nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le pire des esclavages, c'est celui du péché. Car on peut être esclave dans la chair, mais libre selon Dieu, quand, grâce à lui, on a été affranchi. Et la majorité des humains se disent libres, mais ils sont en fait esclaves du péché. La fête des pains sans levain a pour objet de nous rappeler, entre autres, que ce qu'est le pire des esclavages, mais aussi ce que représente la vraie liberté. Elle nous donne l'occasion de faire le point, de nous demander s'il y a encore quelques domaines dans notre vie où il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous demander s'il n'y a pas encore quelques péchés dans nos vies. Comme nous l'avons lu il y a quelques instants dans Romains 6, Paul dit des appelés, des prémices du plan de salut. Ayant été affranchis ou libérés du péché, vous êtes devenus esclaves ou serviteurs de la justice. Vous êtes devenus serviteurs de la justice. Comment devient-on esclave ou serviteur de la justice? En fuyant le mal, en renonçant au péché et en pratiquant ce qui est juste et bien, en d'autres termes, en obéissant à Dieu. Le péché asservit, il rend esclave. Les enfants d'Israël étaient esclaves de leur attitude, de leur rébellion envers Dieu. À la lecture du livre des Juges, par exemple, on constate que quand Israël obéissait, il était béni. Mais quand il désobéissait, il était maudit et conquis par les nations environnantes. Et en fait, toute son histoire a été semée de périodes de bénédiction et de malédiction. Christ est venu pour nous montrer une autre voie, la voie de la vraie liberté. Une liberté qui se traduit par une mentalité diamétralement opposée à celle du monde, à celle de Satan. Prenons un exemple. Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu chapitre 5 et le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oh, que c'est difficile. C'est difficile. Ce n'est pas humain, cela. Mais c'est une autre mentalité, celle de Christ. Et c'est de cette liberté dont il est question. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais faisons marche arrière un peu, faisons marche arrière quelques versets et recommençons, mais dans le même chapitre, à partir du verset 38. Verset 38, vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil » et « dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Une mentalité totalement différente, mais c'est cela la vraie liberté. L'un des plus grands péchés de l'ancien Israël était qu'il se prostituait à d'autres dieux. Il n'y a pas d'autre mot. Il se prostituait à d'autres dieux. L'Égypte avait toute une panoplie de faux dieux. Khnoum, le dieu bienfaiteur du Nil. Api, l'esprit du Nil. Alors, il y a plusieurs dieux pour le Nil, comme vous allez voir. Sotpet, le dieu des inondations du fleuve sacré. Osiris, la déesse dont le sang était le Nil, la déesse de la vie et de la flore, ou de la végétation. Edjo, la déesse du delta du Nil. Atmeyit, la déesse gardienne des poissons et des pêcheurs. Les pêcheurs, ceux qui vont à la pêche, hein. Nous sommes tous des pêcheurs, mais là, il était question des poissons et des pêcheurs, n'est-ce pas? Eket, la déesse à tête de grenouille. À tête de grenouille dans un corps de femme. Déesse des naissances, des sages-femmes et des heureuses naissances. Képer, le dieu insecte à tête de scarabée. Arpakéred, le dieu protecteur des humains qui combattait les monstres. Amun, le dieu des croyants et du vent. Quel rapport entre les deux? Les croyants, le vent? Mavdet et Sed, deux divinités supposées protéger les humains. Ben où étaient-ils ceux-là pendant les dix fléaux, et toutes ces divinités, où étaient-ils? Où étaient-elles? Apis, le dieu bovin à tête de taureau ou de veau dans un corps d'homme. Mnevis, un autre dieu à tête de veau. Il y avait plusieurs têtes de bétail dans toute la panoplie, n'est-ce pas? Nut et Net, deux autres divinités à tête de vache. Encore des bovins. Baneb, Djedet et Erishaph, deux dieux à tête de bouc. Ah, on passe à un autre animal. Hathor, Horus et Chu, dieux de l'air et du ciel. Seth, dieu des orages et protecteur des moissons. Neper, dieu des graines et des céréales. Isis, déesse de la vie. Ra, Atum et Horus, les dieux soleil. Nous nous arrêterons là. Nous devons bien réfléchir à ce que signifie notre liberté. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 5. Vous-même, vous êtes des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Apocalypse chapitre 1, verset 4. Apocalypse, quelques pages plus loin. Apocalypse chapitre 1 et le verset 4. Dans quelle sorte de liberté sommes-nous? Apocalypse 1, 4. Jean dit aux sept églises qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Par son sang. Cela a coûté énormément, le prix a été énorme pour cette délivrance spirituelle. C'était surtout une délivrance spirituelle, comme je le disais antérieurement. Notre captivité physique est due à notre captivité spirituelle, à notre asservissement spirituel. Mais Christ nous a délivrés. Voilà Dieu qui n'avait pas besoin de venir, de descendre à ce niveau des hommes. Mais c'est comme cela que Dieu est extraordinaire. C'est un être extraordinaire. Il a accepté lui-même de venir souffrir, de devenir homme pour savoir ce que c'est qu'être un homme, pour comprendre par où nous passons. Et Dieu voulait faire cela. Il voulait se mettre à notre place, comprendre qu'est-ce que c'est qu'être humain. Alors Christ est venu pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'être humain et mourir à notre place. Ça dépasse l'imagination, c'est incroyable. Quel Dieu nous avons, un Dieu extraordinaire. Je n'ai pas les mots qu'il faut pour décrire ce que je pense. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Jean chapitre 12, verset 26. Jean chapitre 12, verset 26. À nouveau, il est question de cette autre mentalité que nous devons avoir. Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Quelqu'un me sert, nous sommes serviteurs de Christ. Mais que c'est beau d'être serviteur de Christ. Car cela apporte la vraie liberté. Alors on est serviteur, mais on apporte la liberté. Frères et sœurs, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous avons été libérés pour devenir serviteurs. Libérés pour devenir des serviteurs, mais des serviteurs de la justice divine. Ce qui peut de prime abord passer pour illogique, mais logique du point de vue de la sagesse divine. Car la vraie liberté passe par notre soumission à notre Père céleste et à Christ. Et en fait, cette soumission va se traduire tout compte fait par d'inimaginables bénédictions. Évidemment, c'est spirituellement qu'on en juge. Nous sommes en train de devenir des serviteurs de la justice, comme je l'ai répété plusieurs fois dans ce message. Nous sommes en train de devenir des serviteurs de la justice. Et c'est en cela que se situe notre libération. Serviteurs de la justice en ce sens que nous nous soumettons totalement à la nature de notre Père céleste et de Christ, à leur pensée, à leur mentalité, à leur façon de penser. Notre liberté a un fondement précis. Paul a écrit aux Corinthiens, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je vous propose trois clés pour bien profiter des leçons symbolisées par cette fête. Premièrement, notre liberté exige un grand nettoyage spirituel. Je répète, notre liberté exige un grand nettoyage spirituel. Ce que nous savons déjà finalement, n'est-ce pas? Nous le savons déjà. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, 7 est un passage que nous aurons lu un certain nombre de fois pendant cette Pâques et cette fête des pains sans levain, comme nous le faisons chaque année. 1 Corinthiens 5, 7, faites disparaître le vieux levain. Hein, le péché qui reste encore, qui s'accroche à notre peau. Faites disparaître tout ça. afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes sans levain, non pas par nos efforts humains, mais parce que Christ a été immolé, et lui a payé le prix de nos péchés. Mais nous devons essayer de demeurer, nous devons demeurer sans levain après cela. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Il est question de quelque chose de symbolique ici. Il ne parle plus de pain physique, il parle de pain sans levain, de pureté et de vérité. Il y a une analogie ici. Galates chapitre 4, verset 22. Galates chapitre 4 et le verset 22. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. C'est très profond ce que Paul dit ici. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, c'est une allégorie ici. Car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem spirituelle, autrement dit, c'est notre mère, à nous les appelés, à nous les prémices. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, et si, ainsi en est-il encore maintenant. Voyez le parallélisme qu'il y a entre ces deux alliances, ces deux femmes extraordinaires. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Sommes-nous esclaves ou sommes-nous libres ? De qui sommes-nous le fils ? Bon, nous le savons. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Paul répond ici à cette question. Et rappelez-vous que dans l'original, il n'y a pas de coupure dans les chapitres comme c'est ici. La pensée se continue, se poursuit au chapitre 5 et au verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tout cela, ça va dans la même pensée, ce n'est pas coupé. Ce n'est pas un autre chapitre, ce n'est pas une autre pensée, ça va dans le même sens. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Deuxième clé, notre liberté exige que nous tirions les leçons de l'exode des enfants d'Israël, que nous apprenions des leçons de leur passé, de leur captivité. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, parle de cela. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 1. Dieu veut que nous tirions des leçons de leur histoire, de leur passé, de leur esclavage, de leur servitude. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils n'étaient pas incidemment dans la mer des roseaux où on a de l'eau jusqu'aux chevilles, ou jusqu'aux genoux. Au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. À nouveau, ils restèrent captifs de leur mentalité, de leurs idées. Oh, ils furent libérés physiquement, mais pas spirituellement. Voilà la grande différence entre eux et nous. Nous avons, nous, été libérés spirituellement. Vous pouvez lire le restant du passage ici, c'est un passage très important. Je n'ai pas le temps de tout le lire, mais c'est un passage très important pour nous. Il fallut aux enfants d'Israël un certain temps pour parcourir la distance entre Ramsès et la mer Rouge. le golfe d'Aqaba et non le canal de Suez, incidemment, ayant été symboliquement été baptisé dans la mer Rouge. Le baptême, hein, vous êtes sous l'eau, dans l'eau. Hein, c'est pas un petit peu d'eau sur le front, dans l'eau, submergé. Quand ils quittèrent l'Égypte, de nuit, ce fut sans doute pour eux un événement qui changea leur vie à tout jamais. Ce fut la nuit où ils furent officiellement libérés. Quittant l'Égypte, ils partirent de nuit et voyagèrent pendant plusieurs heures. Cette nuit, contrairement à la soirée que nous célébrons pour la commémorer, la soirée mémorable, ne fut pas de tout repos pour eux. D'après l'Écriture, ils parcoururent la distance entre Ramsès et Sukkot, qui, de l'avis d'un certain nombre d'érudits, devait être d'environ 32 kilomètres. Il leur fallut donc probablement au moins 8 heures pour parcourir cette distance. Et si l'on considère qu'ils marchèrent à la vitesse d'un peu plus de 3 kilomètres à l'heure, ce qui est très raisonnable, il leur fallut 10 heures pour accomplir ce trajet. Bon, oui, mais vu qu'ils fuyaient, peut-être qu'ils allaient un peu plus vite, et sans doute allèrent-ils à une distance un peu plus rapide, et à ce moment-là, ils prirent quand même 8 heures hein, pour y arriver. Alors pour eux, le premier jour des pains sans levain exigea de gros efforts. Fuir l'Égypte prit du temps et exigea un certain travail. On a calculé que la distance entre Sukkot et la mer Rouge est d'environ 180 kilomètres. Et l'on a calculé que la traversée de la mer Rouge était d'environ 24 kilomètres. Il leur fallut donc probablement au moins 7 heures pour traverser la mer Rouge. Ça ne s'est pas fait en quelques minutes. 7 heures avec ces 2 murailles de chaque côté, ces murailles d'eau, qui devaient être très impressionnantes. Mais il leur fallut au moins 7 heures pour traverser. Et ces calculs s'accordent avec ces indications bibliques. Les enfants d'Israël se dirigeaient vers le mont Sinaï en Arabie, d'après Galates 4, 25. Et là, Dieu avait proposé de les former pour qu'ils deviennent son peuple élu. Ce qu'ils ne devinrent pas longtemps, n'est-ce pas? Troisième clé, notre liberté exige de notre part un engagement total. Il exige de notre part un engagement total. 1 Samuel chapitre 16, verset 7, dit, l'Éternel dit à Samuel, vous rappelez, hein, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Rappelez-vous ici, il se dirige vers les fils d'Isaïe, et Isaïe dit, ah ben tous mes fils sont là. Alors, Samuel regarde tous les enfants et il dit, mais ils sont tous là? Oh, il en reste un, mais il garde les moutons. Ben oui, mais c'était celui-là que l'Éternel avait choisi. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Nous étions dans 1 Samuel 16, 7, incidemment, je n'ai fait que citer. Dans Proverbe 17, verset 3, il est écrit, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Proverbe 17, 3. Mais quelle place ont les compromis dans notre vie? Quelle place ont les compromis dans notre vie? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est une question que nous pouvons nous poser lors de cette fête des pains sans levain. Et pas seulement pour cette petite période, mais pour tout le temps. Pour tout le temps. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, etc.? Sortez du milieu d'eux. Paul dit-il ici dans le verset 17, « Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Jérémie 31, pour terminer, Jérémie 31 et le verset 31, « Dieu a pour dessein d'éliminer le levain du cœur des hommes, afin de les rendre aptes à suivre éternellement ses voies dans son royaume. » Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » L'Égypte avait beaucoup de dieux. J'en ai cité 28. Or, ces dieux ne valaient rien. Ils ne valaient rien. Ils étaient impotents et purement imaginaires. Pourtant, c'était à eux que le peuple était asservi, dans une certaine mesure, et évidemment au péché aussi. Ce monde est l'Égypte spirituelle. Il est plein de faux dieux et de fausses valeurs, et à Satan pour maître. Nous ne sommes pas de ce monde. Étant des serviteurs de la justice, nous appartenons à notre grand Dieu. Nous avons été appelés à vivre loin des dieux de l'Égypte. Assurons-nous que nous achevons notre exode spirituel et atteignons la montagne de l'Éternel et son merveilleux royaume. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, une bonne fête des pains sans levain ou ce qu'il en reste, chargée de sens. Et je vous dis au revoir, bon courage et à bientôt.